première partie de l'exposé.
Alors,
en fait, je voulais revenir sur le patron d'LVMH et les médias. On n'a pas arrêté de le faire, de le présenter aux infos en train de dire, écoutez, si ça continue comme ça aux États-Unis, les conditions de travail sont beaucoup mieux pour nous, on est moins taxés, tout se passera mieux, en France on est beaucoup trop taxés. Et les médias ne mettent la lumière que sur lui, les grands patrons en fait, mais à aucun moment on a des gens justement issus de la classe ouvrière qui tiennent vos propos et qui disent, bah attendez, mais c'est pas là le débat. Si lui s'en va, ben nous, qu'est-ce qu'on devient quoi? Donc en fait, là où je voulais en venir, c'est qu'on n'arrête pas de mettre la lumière sur « Attention, il ne faut pas qu'il parte, sinon il n'y aura pas de boulot en France. » Donc il faut absolument qu'on garde nos patrons et qu'on accepte ce qu'ils nous imposent, à savoir des petits salaires. Et puis, sinon, c'est un chômage, quoi, et ils s'en vont. Donc là, je voulais revenir là-dessus. Puis, dernière petite question sur ce que vous avez dit à la fin. J'aimerais bien que vous développiez la petite idée concernant la stratégie de Biden au sujet de l'Ukraine. Donc, le fait qu'ils aient fait en sorte de nous amener vers cette guerre et qu'on n'ait rien vu, en fait, qu'on n'a pas saisi pour la majorité des Français que la situation actuelle, en fait, c'est l'héritage de Biden. Moi, je ne l'avais pas vu du tout, en tout cas. Merci.
Alors, qui c'est qui veut répondre? Je suis obligé de faire toutes les réponses non plus.
Hein. S'il y a d'autres interventions sur ce sujet-là ou d'autres, hein, je peux passer le micro encore. Il suffit de lever le doigt, c'est pas compliqué. Hein, c'est... Oui?
Je
peux
pas
t'arriver,
parce que le problème...
Si les patrons s'en vont, peut-être qu'on peut s'organiser pour prendre les usines et puis les faire marcher par nous-mêmes, comme ça est réglé à Gemenos par exemple, c'est possible. Il faut qu'on s'approprie, enfin, qu'on prenne les moyens de production. Elle est là la solution.
Oui, moi je travaille à Airbus. Et comme il y a plus de monde qu'au forum Airbus, je continue. Sur la chaîne YouTube de l'Assemblée nationale, le patron d'Airbus, Guillaume Faury, a été présenté à l'Assemblée nationale son plan pour avoir des aides. Donc il dit que Airbus, d'accord, fait des bénéfices, mais pas tant que ça parce qu'il y a eu l'inflation. Alors quand il s'agit de nos salaires, ils ont augmenté. Par contre, quand il s'agit de ses bénéfices, c'était 4 milliards d'euros, mais quand même, il faut tenir compte de l'inflation. Et l'autre côté, c'est qu'il va demander à l'Assemblée nationale des aides sous quelle forme. Il dit qu'il faudrait venir sur les retraites par capitalisation et que l'argent des retraites serve à financer les entreprises, Airbus en premier. Donc en fait, c'était intéressant, et encore c'est ce qui a été filmé, ce qui est présenté par la chaîne YouTube de l'Assemblée nationale, c'est qu'une petite partie de la vérité, comment la bourgeoisie dicte sa loi aux politiques. Et eux, ils sont tous au garde à vous pour l'écouter, pour lui dire « Ah oui, tiens, bonne idée, on va essayer de faire passer la pilule ». Ils sont un peu plus gênés parce que si ça provoque des mécontentements, c'est eux qui sautent et qui devront être remplacés par un autre gouvernement, mais ils sont tous prêts à s'exécuter devant ce qui est la prochaine attaque contre les retraites, qui succède à d'autres, qui en fait fait que ça alimente encore les caisses de la bourgeoisie, ça alimente encore ces milliards de bénéfices en dégradant notre vie, c'est-à-dire qu'en dégradant nos retraites, d'une façon ou d'une autre, soit en augmentant la durée de cotisation. Donc là, on a un exemple de comment est-ce que la bourgeoisie dicte sa loi politique et comment est-ce qu'en face, nous les travailleurs, il faut qu'on ait notre propre politique. Et justement d'être indépendant de nos patrons, de ne jamais faire cause commune avec eux. Parce que lui, il peut dire, je vais à l'Assemblée nationale demander des sous, mais c'est pour vous, c'est pour vos emplois, c'est pour vos salaires. Sauf que nous, depuis des années, notre vie en tant que travailleur, elle se dégrade. Donc ça montre, comme le disait Jean-Pierre, qu'on n'a pas d'intérêt commun avec ces gens-là. Et l'autre aspect par rapport à l'Ukraine, c'est que, pour revenir un peu sur ça, c'est que l'épargne salariale d'Airbus est gérée par Amundi, qui est un fonds d'investissement, une sorte de banque. Et Amundi a été chargé dernièrement de rééchelonner la dette ukrainienne, parce qu'en août dernier, ils ne pouvaient plus payer avec tout ce qu'ils ont acheté comme armes. Et comme ils ne pouvaient plus payer, Amundi, donc entreprise française, bien française, dit à l'Ukraine, pas de problème, on peut rééchelonner votre dette. Et ils vont étrangler les Ukrainiens en demandant des privatisations de services publics, des licenciements ou en mettant la main sur des terres agricoles. Alors, moins que les capitalistes américains. Mais ils se comportent à vis-à-vis de l'Ukraine et des travailleurs ukrainiens comme ils se sont comportés vis-à-vis de la Grèce. Ils vont les saigner pour faire encore plus de profits, comme si ce n'était pas suffisant d'avoir subi la crise, d'avoir subi la guerre. Et c'est ça qui montre que c'est dans le ver est dans le cœur du système. On ne peut pas le faire fonctionner de façon vertueuse, il faudra vraiment le renverser. Et qui c'est qui peut le faire? Ben justement, c'est les travailleurs, c'est la classe ouvrière, en Ukraine, en France et partout. Alors, on est une minorité, mais déjà, expliquons ça autour de nous, suscitons des réactions collectives quand on le peut, et en espérant que ça pourra grandir pour amener au renversement du système.
Juste un complément sur Biden. Cette guerre, elle n'est pas venue comme ça par hasard. Il y avait un journal américain, je ne sais plus si c'était le Washington Post ou le New York Times, qui avait révélé que depuis 2004, la CIA avait financé une dizaine de bases militaires ukrainiennes le long de la frontière russe. Bon, c'était pas innocent non plus. L'objectif poursuivi par l'impérialisme américain, c'est de contrôler encore plus, d'avoir encore plus la main sur ces pays d'anciens pays du bloc de l'Est et de mettre la pression de plus en plus grande sur la Russie. De l'autre côté, les oligarques russes, les intérêts russes représentés entre autres par Poutine. Bon, il y a un moment donné où ça télescope, il y a un moment donné où c'est plus acceptable de ce côté-là. Je ne suis pas en train de justifier, on n'a jamais justifié l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Mais c'est juste pour expliquer que là-dedans, entre Poutine et Zelensky, Biden, en fait, les travailleurs russes et les travailleurs ukrainiens, et puis les travailleurs européens, n'ont aucun intérêt. On est pris en étau. Dans des intérêts qui nous sont complètement opposés. Et Biden a poursuivi cette politique, mais comme l'impérialisme américain poursuit cette politique aussi à Gaza, aussi en Palestine et sur toute la surface du globe. C'est que derrière, pourquoi l'impérialisme américain il a autant de bases militaires à l'étranger? C'est la puissance ou combien de très très loin qui a je ne sais pas combien de dizaines et de dizaines de bases militaires, pratiques, je ne veux pas dire dans tous les pays du monde, mais dans tous les coins stratégiques, parce qu'ils sont là pour garder, pour contrôler à la fois les populations ou la politique des États, parce que derrière, il y a des intérêts économiques américains qui doivent être protégés. L'impérialisme français fait exactement la même chose, mais avec des petits pieds, dans une très très moindre mesure. Avec des bases militaires françaises essentiellement en Afrique. Mais c'est exactement pour les mêmes raisons. C'est que derrière, il y a les intérêts de Areva, il y a les intérêts de Bolloré, les intérêts des industriels français qu'il faut protéger, qui sont en train d'exploiter, de piller les richesses de ces pays-là pour faire tourner leurs usines, faire tourner leurs industries, pour générer des milliards, des dizaines, des centaines de milliards de profits. Donc cette politique... Ce sont les peuples qui en font les frais. Ce sont les populations qui en font les frais. Alors ça nous a... C'est un peu explosé à la figure de tout le monde quand avec l'arrivée de Trump. Parce que Trump, c'est pas un politicien comme un autre. C'est un capitaliste à l'origine. Lui, les forfaitures, l'apparat, la façade, la diplomatie, tout ça, il s'en fout. C'est pas son job, c'est pas son truc. Lui, c'est un capitaliste, c'est un patron... C'est un milliardaire, voilà, j'y vais, et puis j'y vais franchement. Bon, et donc c'est un langage un peu cru, et du coup on comprend beaucoup plus facilement. Quand il a convoqué Zelensky, qu'il l'a engueulé devant les caméras de télé dans son bureau ovale, il s'est comporté comme un mafioso, en disant, voilà, les États-Unis t'ont protégé, te donnent des armes, maintenant faut rembourser, point barre. La démocratie, la liberté, non, ça c'est... Laisse tomber. Ça, c'est pour les journaux, c'est pour les populations, ça. C'est un habillage. La vraie raison, c'est... Et puis, tu vas payer. Il y a même un moment donné, il a eu la proposition. Bon, c'est vrai que des fois, il est... Enfin, des fois. Souvent, il est très farfelu. Il fait des propositions très farfelues. Mais à un moment donné, pour protéger les centrales nucléaires ukrainiennes, il avait proposé qu'elles soient américaines. Que l'Ukraine les donne directement à des patrons américains. Comme ça, Poutine n'oserait pas attaquer les centrales nucléaires qui seraient devenues la propriété des États-Unis. Voilà, ils se comportent comme les maîtres du monde, et c'est vrai qu'ils sont aujourd'hui les maîtres du monde, les capitalistes américains, et c'est ça qu'il faut qu'on décode, pour bien comprendre là-dedans où sont nos intérêts de travailleurs. Parce que si on écoutait les politiciens, si on se souvient des politiciens, du discours des politiciens d'il y a 3 ans, moi j'ai le souvenir de Nathalie qui passait au tout début à BFM pour... Et qui attaquait cette pression organisée par l'impérialisme américain et qui expliquait cette guerre à travers la pression exercée par l'impérialisme américain, ça veut dire pour les journalistes, on est du côté de Poutine, on est pro-russe, enfin on est pro-Poutine. Bon. Et à l'époque, c'était la liberté, c'était la démocratie, c'était les valeurs occidentales qu'il fallait défendre. Et aujourd'hui, ça c'est plus le discours de l'impérialisme américain. Les États-Unis ont fait ami-ami avec la Russie de Poutine. Bon, parce que derrière, ils ont un autre ennemi, un autre adversaire, on va dire, un autre concurrent, c'est les capitalistes chinois. Bon, ça c'est leur jeu, c'est leur politique. Mais derrière, on a toujours, au niveau de l'Europe, des politiciens et des gouvernements européens qui nous disent « le danger, ça reste la Russie, bientôt on va avoir les chars russes ». Bon, ils le disent un peu moins parce que, quand même, personne n'a... Enfin, beaucoup... On a du mal à y croire à ce discours-là, mais c'est les chars russes qui vont défiler sur les Champs-Élysées si on ne se protège pas, si on n'a pas une certaine indépendance militaire, une souveraineté nationale. On en revient toujours à cet élément de langage, à ce discours employé par la gauche, la droite et l'extrême droite et les syndicats, c'est qu'il faut, nous les Français, il faut qu'on soit indépendants, il faut qu'on se protège de l'extérieur, de l'étranger. Voilà, et c'est cette idée de raisonner en tant que Français, qui est extrêmement dangereuse pour nous en tant que travailleurs. Il ne faut pas qu'on raisonne en tant que Français, il faut qu'on raisonne en tant que travailleurs face à des capitalistes. Et sinon on est perdu. Sinon, oui, on va se faire embrigader, et si jamais il devait y avoir la guerre, on sera emporté dans le nationalisme, dans le patriotisme, etc. Parce que là, ça ne sera plus le patriotisme économique qu'il faudra défendre, ça sera le patriotisme tout court. Voilà, et ils veulent nous emmener sur ce terrain-là. Et pour ça, sur l'échiquier politique, je le redis, alors chacun a sa manière de présenter les choses, chacun a son langage. Bien évidemment que Jean-Luc Mélenchon n'utilise pas le même vocabulaire que Marine Le Pen, bien entendu. Ils ne sont pas aussi grossiers, ils ne sont pas aussi outranciers, il n'y a pas les mêmes idées qui sont défendues. Mais sur le fond, ils résonnent en tant que nation, ils résonnent en tant que patrie. Et aujourd'hui, ils sont tous pacifistes parce que personne ne veut la guerre aujourd'hui. Demain, ces pacifistes-là, ce seront les premiers à forcer l'ensemble des travailleurs, nos gamins, à aller sous l'uniforme, à prendre le flingue et puis à aller défendre les intérêts des capitalistes français. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Et surtout, c'est ça qu'il faut qu'on discute autour de nous pour défendre une autre politique.
Je voudrais savoir si vous pouvez aller encore un peu plus loin concernant l'Ukraine, parce que vous avez dit effectivement que les Américains avaient leur intérêt. On a vu qu'avant, la France, l'Angleterre ont accouru auprès de Zelensky pour surtout ne pas le lâcher et se partager aussi la part du gâteau. Donc moi, je voudrais savoir si vous pouvez... comment vous l'envisagez, ça? Qu'est-ce qui se passe dans leur esprit? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire? Comment ils vont se partager le gâteau? Comment ils peuvent penser que les Ukrainiens, les ouvriers ukrainiens vont se laisser faire? Et puis nous, on va regarder cela, comment ils vont le justifier pour que nous, on acquiesce. Vous avez parlé un petit peu de Gaza, la Palestine, si vous pouviez aussi l'aborder. Pourquoi on n'a aucun intérêt là-bas? La démocratie, aucun, on a compris. C'est de la para, mais... Pourquoi la démocratie, on l'a laissée, les idées de nos valeurs universelles, d'humanité, de solidarité, d'entraide, d'anticolonialisme, etc., elles se sont effacées totalement. On a tout oublié de tout ce qu'on avait construit depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais nous, on voit ça, puis alors, puis on bouge pas, quoi. Et c'est ça que je voudrais savoir comment vous l'envisagez, vous le voyez.
En complément de ce que vient de dire, en complément de ce qui vient d'être dit, Donc, en complément de ce qui vient d'être dit, je voudrais savoir quelle est votre analyse concernant le positionnement des Européens dans le partage de l'Ukraine. Parce que là, on a l'impression qu'il y a une entente entre les Russes et les Américains, j'ai le sentiment que les Européens ne trouvent pas leur place là-dedans.
Oui, moi je ne réponds pas directement à la question, mais il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est par rapport à la démocratie depuis la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'en fait, le système démocratique depuis la Deuxième Guerre mondiale, ça a quand même été une période dans laquelle il y a eu des guerres continuellement, que ce soit les guerres coloniales, comme la guerre d'Algérie, ou ce qui s'est passé en Madagascar, ce qui s'est passé partout, et surtout la guerre d'Indochine, la guerre du Vietnam, la guerre de Corée qui a fait des millions de morts, on ne sait même plus. Alors parler de démocratie, il faut vraiment parler vite. Quant à la classe ouvrière en France elle-même, c'était pas tellement jojo que ça, hein, d'accord, on nous parle des 30 glorieuses, mais c'était pas du tout glorieux. Hein, on avait l'eau sur le palier, on n'avait pas, les salaires étaient extrêmement bas, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas de drap, il y a quelqu'un qui m'a parlé tout à l'heure de sa mère qui disait « je n'avais qu'une culotte ». Enfin bon, nous dire que c'était flamboyant, il ne faut pas exagérer. Hein. L'exploitation, elle était bel et bien là. Et les crimes à travers le monde aussi. C'est vraiment pas nouveau. Ça n'a pas cessé.
Oui, en fait, depuis 1945, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu une minute de paix dans le monde. Ça n'a pas touché la France directement, à ceci près qu'elle a quand même pratiqué les guerres coloniales en faisant des centaines de milliers de victimes, mais le système capitaliste, il n'a pu se maintenir que par la guerre. Leur argent, il vient bien de quelque part, il vient de l'exploitation, et au plus ils exploitent les gens, ils les écrasent, ils pillent les richesses. Par exemple, vous voyez le Congo, c'est des pays qui sont extrêmement riches au niveau de leurs richesses minérales, de leur sous-sol, c'est les pays les plus pauvres en réalité. Pourquoi ? Parce que toutes leurs richesses sont drainées par les groupes capitalistes. Mais ils mettent au pouvoir des gens qui sont des dictateurs. Donc la dictature, là je parle du Congo, Brazzaville pour le pétrole par exemple, c'est des dictatures qui sont liées à Total, qui a financé des bandes armées. Nous on a quelque part le beau visage du capitalisme. Je suis d'accord avec ce qu'a dit la camarade, tout n'est pas rose, loin de là. Mais quelque part, vous avez à peu près, tout le monde, personne ne meurt de faim, on est à peu près mais c'est la vitrine du capitalisme. Au niveau mondial, c'est la catastrophe. Et en particulier pour les pays d'Afrique, c'est des dictatures qui ont été mises en place, souvent avec le parrainage et la bénédiction de la France, qui écrasent leur population. Et sur quoi ils s'appuient ? Sur les pires sentiments, sur les sentiments de division ethnique qu'ils ont suscité. Alors pour ce qui est de l'Ukraine, on le considère comme un pays à part, mais jusqu'à 1990, c'était une partie de l'Union soviétique. Et c'était un seul grand pays qui était issu d'une révolution ouvrière, qui avait mis les capitalistes dehors et qui fonctionnait comme un tout économique à peu près cohérent entre la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, le Kazakhstan et les autres républiques. Avec la chute de l'Union soviétique en 1990, les groupes capitalistes se sont jetés sur tous ces pays-là pour tailler dans cette économie, quitte à la détruire parce qu'elle avait une cohérence. Elle était quand même plus ou moins organisée comme un tout. Et ils ont récupéré la sidérurgie du Kazakhstan, puisque c'est comme ça que Mittal a réalisé sa première usine, et ils ont aussi appuyé des dictatures dans chacun de ces pays. Ils ont été chercher des mollahs en Afghanistan pour s'appuyer sur les sentiments religieux qui avaient, qui avait beaucoup régressé avec la Révolution. Donc ils se sont appuyés sur ce qu'il y a de pire dans le nationalisme, dans la haine entre peuples, dans la haine interethnique, dans la haine religieuse. Et ça, c'est les capitalistes qui l'ont téléguidé, les nôtres, c'est-à-dire les capitalistes français, allemands, américains, qui se sont appuyés sur ça. Entre l'Arménie, sans faire trop long, mais entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ils ont largement soufflé sur les braises. Ils ont mis des bases militaires, ils ont suscité des pogroms, des massacres interethniques. Donc c'est pour dire qu'on n'essaye pas de voir ça comme une fatalité, mais on ne dit pas que les gens, spontanément, ils s'adorent, mais en tout cas, le fait qu'ils se détestent et qu'ils se massacrent, et qu'il y ait cette politique de massacre interethnique général, c'est suscité par des grandes sociétés capitalistes. Et que justement, nous, qui en souffrons le plus, les travailleurs de ces pays-là, comme nous ici, il faut qu'on trouve la force en nous de proposer une perspective internationaliste, de se tendre la main les uns des autres et de dire, comme l'avaient fait les ouvriers en 1917 en Russie, parce qu'en Russie, il n'y avait pas que des Russes, il y avait des Kazakhs, des Kirghizes, des Tatars, des Baltes, il y avait tout un tas de populations qui peut-être avant ne s'entendaient pas, mais qui se sont entendues pour faire la révolution. Et bien c'est ce drapeau rouge qu'il faut essayer de reprendre justement, pour redonner des perspectives internationalistes à la classe ouvrière, de renversement de ce système qui ne sait que nous mener les uns contre les autres.
Vive la révolution !
Alors pour aller dans le même sens, pour compléter ce qu'ont dit les camarades, les Européens, les Européens, quand on parle des Européens, il faut qu'on précise ce qu'on met derrière le mot européen. C'est comme derrière les Français. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot français ? On préfère parler de travailleurs et puis de capitalistes. Alors après, sur la... Donc les capitalistes européens, là-dedans, au niveau de l'Ukraine, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire ? Mettez-vous à la place d'un capitaliste français. Vous voulez votre part du gâteau ? Il y a toute la reconstruction à faire, si jamais la guerre s'arrête bientôt. Il y a toute la reconstruction à faire. Si vous mettez à la place de Bouygues ou de Vinci, il y a du business à faire, il y a du fric à faire. Et en plus, ça sera payé rubis sur l'ongle par l'État ukrainien qui va se surendetter, etc. Si ça ne suffit pas, de toute façon, il y aura l'Europe derrière qui va payer. Il n'y a aucun risque. Mais pour ça, il faut que les politiciens européens, ils arrivent à grignoter des petites miettes par rapport à l'impérialisme américain. Ils n'ont pas la tâche facile. Parce que ceux qui dirigent le monde, c'est l'impérialisme américain. C'est pas Macron, c'est pas... je sais plus le nom du chancelier allemand, etc. Parce qu'il y a une supériorité de l'économie américaine, de l'armée américaine, qui fait que c'est eux qui font la pluie et le beau temps à travers le monde. Mais est-ce que pour autant, si nos politiciens français, Macron, même si c'est pas Macron, si c'est le suivant, peu importe, arrivait à glaner quelques miettes sur le dos de la population ukrainienne, est-ce que, enfin, quel intérêt, nous, en tant que travailleurs en France, on en tirerait ? Et même si on en tirait quelque intérêt, ça nous mènerait où ? C'est-à-dire, on serait prêt à accepter que les capitalistes français écrasent les travailleurs ukrainiens pour que nous, on ait un peu plus à manger ? C'est ça la perspective qu'il faudrait défendre. Non, en tout cas, c'est pas la nôtre. En tout cas, c'est pas la nôtre. Le camarade, il parlait de l'internationalisme ouvrier, l'internationalisme prolétarien, oui. On fait partie de ce courant du mouvement ouvrier, révolutionnaire, qui défendons l'idée, minoritaire aujourd'hui, majoritaire demain. On en est convaincu, parce qu'on est des optimistes révolutionnaires, que les travailleurs, quelle que soit leur nationalité, leur religion, ont des intérêts communs à défendre face aux exploiteurs, face aux capitalistes, qu'ils soient européens, qu'ils soient des oligarques russes, qu'ils soient des capitalistes américains, etc. Et qu'on a comme seule perspective, alors oui, c'est un chemin de ronce, comme seule perspective, c'est de mettre à bas ce système qui fonctionne sur la tête, c'est-à-dire qu'il ne génère que de crises et des guerres, et qui emmène l'ensemble de la population dans le mur. Et même si nos capitalistes français arrivaient à décrocher quelques marchés, qu'est-ce que ça nous ferait à nous ? Et même, encore une fois, si ça nous ferait quelque chose, mais c'est pas, elle n'est pas là la source.
Alors par rapport à Gaza, c'est exactement le même raisonnement. C'est que dans cette région, vous savez, si cette région du monde, elle était complète, si c'était un vrai désert, sans richesse, sans rien du tout, je discute pas simplement de Israël et de la Palestine. Je parle plus généralement. Il n'y aurait pas ces guerres-là. Les guerres, elles existent quand il y a des intérêts économiques qui sont en jeu. Et là, ce qu'on assiste, c'est de la part de l'État d'Israël, c'est une véritable politique d'épuration ethnique, de balayer sur la surface de Gaza la population palestinienne. C'est leur but, c'est leurs objectifs, c'est leur but. Ils ont pris prétexte des attaques du Hamas du 7 octobre pour passer le rouleau compresseur, faire un déluge de bombes et d'affamer cette population en plus de leur envoyer un déluge de bombes. Et ça se fait en toute complicité avec évidemment principalement l'impérialisme américain sans qui Israël n'existerait pas, mais aussi la complicité de nos dirigeants ici en France et en Occident et en Europe. Et là aussi, j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse. À la fois, c'est quoi la solution là-bas à Gaza? C'est quoi la solution en Palestine? Nous, on pense, on peut être traité de doux rêveur, peu importe. Nous, on pense qu'il y a de la place pour les deux peuples. On pense qu'il y a de la place pour tout le monde là-bas. Mais pour qu'il y ait de la place pour tout le monde, il faut qu'à la fois la population israélienne, la population palestinienne, mais pas que les travailleurs au Liban, en Jordanie, en Égypte, toute cette partie du monde, ils foutent en l'air leurs dirigeants politiques, leurs politiciens, et je mets le Hamas dedans, et foutre en l'air les capitalistes et les bourgeois de tout poil et de toute nationalité. Et qui est une fédération des États socialistes, des travailleurs du Moyen-Orient, qu'ils soient arabes ou juifs, parce que nous considérons qu'il y a de la place pour tout le monde, à partir du moment où les capitalistes, on les met dehors, et les politiciens qui sont à leur sol.
Je sais pas si on m'entend ou pas.
Très bien.
Moi j'ai un gros problème, c'est que même au niveau des militants d'extrême gauche ou anar ou enfin je vais dire en gros chez les militants en France globalement blancs, il y a un impensé tout le temps, sans vous en avez parlé un peu tout à l'heure, de l'Afrique, du fait que ça fait 500 ans qu'on vit sur le dos de l'Afrique. Et la plupart des gens n'en ont pas conscience. Et du coup, on se fait prendre au piège du nationalisme avec des médias de merde qui nous dépeignent les sans-papiers comme des criminels, comme... alors que c'est des gens qui fuient la misère qu'on a foutue là-bas, les guerres qu'on a foutues là-bas, dans lesquelles d'ailleurs l'extrême droite est très présente. Hein. Il y a des sociétés de mercenariat, il y en a au moins une vingtaine en France, qui sont blindés de connards d'extrême droite avec des idées de nazis, qui vont foutre la merde en Afrique, au Moyen-Orient aussi, pour piller toutes les ressources. Et avec des médias qui passent leur temps à donner la version du haut patronat, eh ben, on serait des pauvres Français qui se faisons piller par les sans-papiers, violés, agressés à tous les coins de rue, enfin n'importe quoi. Et on se retrouve pris au piège de ce nationalisme, avec des idées à la con, et c'est très dur de réussir à faire comprendre aux gens, ou alors est-ce que c'est de l'égoïsme, ou du fait de vouloir être dans le déni et se cacher des choses. Mais faire comprendre, parler avec des Français, même militants, du fait qu'on vive sur le dos des Africains et que ça aussi, ça va aller à notre perte. Déjà, en premier lieu, ça fait 500 ans qu'on les fait crever, ces immondes. Mais même des militants qui militent depuis mai 68,
ne veulent à peine entendre parler de ça, du problème du racisme. Parce qu'avec Trump aussi, le gros problème, c'est que, comme il a quand même, comme tout le monde le sait, des nazis avec lui, moi ce que j'ai peur, c'est que si l'extrême droite passe au pouvoir par les élections dans des pays de plus en plus cruciaux au niveau géopolitique en Europe, j'ai peur que ces gens-là veuillent faire exploser l'Afrique à coups de bombe sous prétexte de lutte économique contre la Chine et contre la Russie pour pouvoir tout piller. Et enfin, moi, je pense qu'on est mal barré à ce niveau-là. Et donc, l'antiracisme et la lutte contre la France-Afrique, elle n'est pas assez présente dans les milieux militants. Et je ne sais pas comment aborder les choses parce qu'on en parle aux gens, on a l'impression que ça glisse. Je ne sais plus comment faire.
Moi, je commence à te répondre, j'apporte des premiers éléments de réponse. Je suis d'abord content que tu nous mettes pas dans... Tu reconnaisses qu'on en a parlé de l'Afrique et du pillage de l'Afrique, parce que ça fait partie de notre ADN, et notre ADN, c'est parce qu'on est des communistes révolutionnaires, tout simplement. C'est que pour nous, on envisage la lutte contre le capitalisme à l'échelle internationale. Et qu'on est bien conscient, enfin, on fait partie de ce courant trotskiste, donc marxiste, qui explique un peu comment on en est arrivé là, c'est-à-dire du découpage du monde, de cet impérialisme, au niveau de la fin du 19e siècle.